Question d'aujourd'hui avec Renaud Grégoire.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. Bienvenue à cette émission. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Stéphane Bourgui, qui est chargé de cours en sciences politiques et en sciences religieuses à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi à la direction de production pour Présence Info. Et nous allons parler avec lui de son livre tout récent, Benoît XVI, La foi et la raison, aux éditions Médiapol. Stéphane, bienvenue.
Bien, merci Renaud, merci de l'invitation.
C'est un plaisir, j'ai parcouru votre livre et je pense que ça valait la peine de parler de ces années de recherche, sans doute, que vous avez fait.
Oui, c'est vrai.
C'est des années.
Oui, un doctorat, une maîtrise, oui.
Voilà. Et donc, quel est votre intérêt pour Benoît XVI d'abord, puisque vous avez publié un livre sur lui?
Oui, tout à fait. Mon intérêt pour Benoît XVI, d'abord, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est un pape qui est encore un peu méconnu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ses grands écrits, ses grands textes. Donc, je trouvais intéressant d'abord de le faire connaître. Puis ensuite de ça, plus personnellement, c'est un pape qui m'a, je dirais, accompagné. J'ai découvert Benoît XVI au milieu de mon baccalauréat en sciences politiques. Je découvrais la foi catholique en même temps. Puis Benoît XVI a été comme une sorte de guide pour moi. Donc, je l'ai découvert, j'ai découvert ses écrits, j'ai été tout de suite très, très intéressé là, par toute la question de l'intelligence de la foi. Puis aussi son regard, sa capacité à présenter la posture croyante avec intelligence, en étant conscient aussi des objections du monde moderne, de la science et tout ça. Et chez lui, il n'y avait justement aucune opposition entre foi et raison. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Donc, par la suite, j'ai continué avec une maîtrise, un doctorat qui portait sur sa pensée, donc différents aspects de sa pensée. Une des idées aussi, je pense, qui m'a inspiré à peut-être replonger dans Benoît XVI pour écrire un livre là, après toutes ces années, là, c'est que je trouvais intéressant cette figure profondément ancrée dans la tradition, qui connaît les pères de l'Église, qui connaît la théologie, qui a une sorte de connaissance encyclopédique, si on veut, sur l'histoire de l'Église, et qui pourtant, justement, était capable d'amener cet enracinement dans un rapport avec la modernité qui n'est pas un rapport d'opposition. Puis ça me séduit aujourd'hui parce que souvent, on voit parfois, que ce soit chez les nouvelles générations qui reviennent à la foi ou dans des mouvements politiques, un christianisme très crispé, très rigide, et peut-être un peu à l'encontre d'une certaine caricature qu'on a de Benoît XVI. J'ai trouvé chez Benoît XVI quelqu'un qui n'entre pas dans ces catégories-là, qui peut être à la fois profondément enraciné dans la tradition, mais aussi ouvert au dialogue, ouvert à, justement aux interpellations de la raison. Et donc, je me disais que ça pouvait aussi être une œuvre utile que de rappeler cette dimension-là de Benoît XVI, qui est un peu oubliée, mais qui m'apparaît vraiment importante dans le contexte d'aujourd'hui.
Stéphane Bourgui, vous commencez votre premier chapitre de livre. Bien sûr, vous couvrez toute la vie de Joseph Ratzinger avant qu'il soit Benoît XVI, effectivement. Et dans votre premier chapitre, vous parlez de sa jeunesse. Et je pense que c'est dans ce chapitre-là, pour ma part, que j'ai mieux saisi d'où il venait, Joseph Ratzinger. Oui, pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte il arrive?
Oui, c'est important, hein, le contexte, surtout quand on parle d'un pape ou comme ça, on a l'impression que c'est une pensée qui flotte un peu au-dessus du réel, mais en réalité, c'est des hommes qui viennent de quelque part, qui ont une expérience de la vie. Et Benoît XVI, ben oui, c'est important parce que le jeune Joseph Ratzinger a environ une douzaine d'années quand la Seconde Guerre mondiale commence. Donc, il naît en Bavière. Il naît dans une région profondément catholique. Sa famille, évidemment, est très pratiquante. Il y a un frère, une sœur. Et son père est un gendarme. Il travaille donc pour la police. Mais il est profondément convaincu que le nouveau pouvoir, donc le pouvoir d'Adolf Hitler nazi, qui a été élu en 1933, est un pouvoir qu'il qualifie lui-même là, d'antichrist. Donc, il n'y a aucune ambiguïté dans l'opinion que se fait la famille Ratzinger sur les événements qui sont en train de se dérouler en Allemagne dans les années 30, qui vont tranquillement le mener à la guerre et à toutes les horreurs là, qu'on connaît.
Stéphane Bourgui, lorsque vous dites qu'il voyait le nazisme comme l'antéchrist, ça veut dire qu'il ne voyait pas seulement les dérives du nazisme, mais qu'il y avait une interprétation religieuse du nazisme.
Oui, exactement, exactement. On peut se rappeler qu'en 1937, le pape Pie XI a publié une encyclique qui dénonçait vraiment l'idéologie nazie comme une sorte de contre-religion, hein, ou comme les mots exacts, là, c'est il déplorait cette idée du mythe de la race, le mythe du sang, le mythe de la religion nationale, et que même on voyait le culte du chef, là, le culte du Führer d'Adolf Hitler comme un faux prophète, hein, comme un prophète du néant, puis comme une sorte de faux messianisme. Donc il y avait vraiment une dimension spirituelle. Il comprenait qu'il y avait quelque chose de malsain là, sur le plan aussi spirituel, donc une sorte de une idéologie qui demande presque un culte de la part de ses adhérents. Et ça, Ratzinger le voyait vraiment comme une corruption de la foi. Là.
Stéphane Bourguet, à la page 21, vous citez Joseph Ratzinger qui va regarder les événements tragiques de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la tragédie de l'Allemagne nazie, et il va écrire « Les événements du siècle nous ont enseigné que cette évidence, comme fondement fiable de toute liberté, bien ancrée sur ses propres bases, n'existe pas. Il est tout à fait possible que la raison perde de vue les valeurs essentielles.
» C'est fort, hein? Comme
Ça veut dire qu'il voyait très bien que dans cette expérience de l'Allemagne nazie, les valeurs essentielles étaient perdues.
Benoît XVI, on peut dire une chose de lui, Ratzinger, plus tard Benoît XVI, ça n'a jamais été... Je dirais un optimiste dans le sens BA, dans le sens tout va aller pour le mieux, toute nouveauté est forcément un changement pour le mieux. Benoît XVI va toujours avoir cette expérience fondamentale qu'un peuple peut vraiment plonger dans l'abîme, peut vraiment tomber dans une idéologie et des pouvoirs peuvent s'imposer qui font régresser l'humanité. Et donc, la nécessité du discernement, la nécessité de toujours avoir un certain pas de côté par rapport aux opinions majoritaires ou à ce qui arrive et qui se présente comme nouveau et qui peut sembler positif, mais qui peut aussi contenir des erreurs. Et donc, pour Benoît XVI, le cheminement de l'humanité, il n'est pas linéaire. Hein, il est fait d'essais, d'erreurs parfois. Il va dire à chaque génération, on doit comme reconquérir les valeurs fondamentales, les valeurs humaines, les valeurs spirituelles. Il n'y a rien qui est acquis. C'est pas comme la science, par exemple. Hein, la science, ça progresse de génération en génération. Tout ce qui est de l'ordre de la morale, des valeurs, de la spiritualité, ça implique la liberté humaine. Donc, c'est comme si chaque génération est un nouveau recommencement. Et parfois, ben, tant mieux, on avance vers plus de liberté, plus de vérité, plus de paix, mais c'est possible aussi de prendre un chemin inverse. Et donc, il y a toujours cette vigilance, je dirais, là, qui est présente chez lui.
Il entre au séminaire, Joseph Ratzinger, oui. Après la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui au séminaire?
Alors, ben, il rentre au séminaire même pendant la guerre. En fait, il va vivre avec d'autres séminaristes aussi l'expérience de la guerre, etc. Mais très rapidement, en fait, après la guerre, il va... S'intéresser à Saint-Augustin.
Ah! Alors, Saint-Augustin!
Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi chez lui. Il va, évidemment, c'est un jeune prodige, on pourrait dire. Il finit son doctorat à 24 ans, quand même, ce qui n'est pas rien. Et il s'intéresse, donc, d'entrée de jeu, là, même avant là, ses études, avant d'entrer au séminaire, et il est vraiment intéressé, fasciné par toute la question de l'intelligence de la foi. Et par contre, il va être un peu refroidi par ce qu'on lui présente du thomisme. Hein. Donc, le thomisme, c'est quelque chose de très... Bon, c'est Saint Thomas d'Aquin, mais c'est pas tant Saint Thomas d'Aquin lui-même qui pose problème, mais c'est plutôt l'idée d'une foi, je dirais, hyper rationalisée, dans des catégories très, très figées, qui se comprend, mais sans vraiment de rapport à l'histoire, à l'expérience humaine. Tandis que chez Saint-Augustin, le jeune Ratzinger apprécie le côté humain, le côté un peu tragique, un peu on cherche, on trouve. Saint-Augustin s'est battu très longtemps là, avec le christianisme, puis il a fait toutes sortes d'expériences. Puis même après sa conversion, il n'y a rien qui est évident pour lui. C'est une sorte de quête de Dieu très profonde, très sincère, jamais déconnecté hein, de l'aventure humaine, du doute et puis de la recherche. Et ça, c'est quelque chose que Ratzinger dit avoir été séduit par, par cette dimension-là. Puis toute sa vie, il va énormément apprécier, se référer là, aux écrits de saint Augustin.
Et il devient professeur.
Et il devient professeur, oui.
Et ça change quand même les choses, être professeur, être prêtre-professeur, c'est quand même différent d'être prêtre en paroisse ou en mission.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il fait une brève expérience en paroisse, qu'il apprécie par ailleurs, mais c'est clairement pas sa vocation que d'être uniquement là, dans la pastorale. Lui, ce qu'il veut, c'est creuser, aller à la racine, hein, toutes les questions fondamentales. Et donc, il va... Il va faire une découverte intéressante aussi chez une autre figure importante de l'histoire de la tradition catholique, c'est Saint Bonaventure.
Moins connu. Stéphane Bourguet. Saint Bonaventure.
Saint Bonaventure, on connaît davantage Saint François d'Assise, qui a été le fondateur des franciscains, mais Saint Bonaventure arrive un peu comme le successeur, puis celui qui va s'occuper de l'ordre des franciscains. Et de façon... Et ça, c'est très intéressant... Joseph Ratzinger va aller chercher chez lui cette idée d'une théologie et même d'une révélation qui s'incarne dans l'histoire. Donc, encore une fois, Ratzinger qui s'éloigne d'une espèce de vision un peu excessivement dogmatique ou, je dirais, ahistorique de la révélation, qui serait juste un ensemble de données objectives, là, comme ça, qui tombent et qui demandent uniquement à être recueillies. La révélation, pour Saint Bonaventure, c'est vraiment quelque chose qui est dynamique. C'est quelque chose qui se fait dans l'histoire. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. C'est Dieu qui est, d'une certaine manière, toujours nouveau. Et la révélation chez Bonaventure, c'est pas uniquement la lettre des Écritures. C'est pas non plus une grande architecture dogmatique. La révélation, c'est vraiment cette relation de Dieu avec l'âme, avec l'Église qui le cherche, la communauté qui le cherche. Et même que c'est tellement, d'une certaine manière, nouveau pour les idées de l'époque de Ratzinger que quand Ratzinger va présenter ce qui est un peu l'équivalent d'une sorte de post-doctorat pour nous, une thèse d'habilitation qu'on appelait à l'époque. Donc, quand il va présenter sa thèse d'habilitation sur Bonaventure, il y a un des professeurs qui va l'accuser de dangereux subjectivisme à cause de cette vision de la révélation. Et Ratzinger va manquer de peu de se faire refuser sa thèse d'habilitation. Mais heureusement, comme il a écrit tout un pavé, il va pouvoir retrancher certains éléments qui ne plaisaient pas et garder une partie qui semblait avoir été préservée des critiques. Et comme ça, il va pouvoir quand même obtenir son diplôme et commencer officiellement là, une carrière d'enseignant. Mais cette idée de révélation comme un dévoilement dans l'histoire, Ratzinger va le garder toute sa vie et ça aura même un impact important sur le Concile Vatican II, dans lequel il va participer plus tard comme expert.
Question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stéphane Bourguy et en compagnie de son livre aussi, Benoît XVI, La foi et la raison, aux éditions Médiapôle. Effectivement, Joseph Ratzinger va devenir un expert au Concile Vatican II. Alors, faut-il rappeler que le Concile Vatican II débute en octobre 1962, mais bien avant ça, ça a été annoncé par le pape Jean XXIII. En 1958, je crois, 58-59, enfin, très rapidement, il annonce qu'il va avoir un grand concile. Mais ça veut dire que déjà, des théologiens se mettent à l'œuvre. Oui, déjà, des gens à Rome se mettent en marche pour préparer ce concile. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est un expert, Joseph Ratzinger, du Concile Vatican II?
Alors, il va obtenir le statut d'expert. En fait, il se fait remarquer, parce que c'est un jeune homme, un jeune professeur qui est brillant. Le cardinal Fring va le remarquer, va l'inviter à venir avec lui au concile. Et c'est lui qui, ultimement, va lui obtenir un statut plus officiel, un statut d'expert. Ce qui est très intéressant avec le concile, c'est que il y a cette impulsion du pape Jean XXIII, hein, qui veut faire de l'air, qui sent que L'Église a besoin de revoir sa manière de présenter la foi chrétienne. Le monde a considérablement changé. On est dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi un monde qui a connu des transformations majeures, là, l'urbanisation, les taux d'éducation. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et on ne voit plus, évidemment, la foi de la même manière qu'il y a simplement un siècle. On n'est plus du tout dans le même contexte. Alors, Jean 23, bon, lance cette invitation à toute l'Église, mais se produit quelque chose, c'est que la curie romaine est chargée de préparer des schémas préparatoires.
En fait, pour avoir des documents,
oui,
des déclarations, les prises de position du concile.
C'est ça. Puis déjà, t'es pas se retrouver avec ce qu'on dit une page blanche, hein, dans le fond, avoir déjà des textes sur lesquels on peut discuter, voter. Mais les évêques arrivent, ils sont mécontents de ces schémas qui sont finalement, et ça c'est les mots mêmes du futur Benoît XVI, ils sont très rigides, il va dire, ils sont marqués par l'esprit de l'antimodernisme, comme si au lieu de présenter positivement la foi chrétienne, on cherchait davantage là, à critiquer la modernité, à sécuriser certaines certitudes, au lieu d'essayer d'accueillir une réflexion, puis ensuite de réfléchir à comment est-ce qu'on peut présenter la foi chrétienne.
Voilà. Stéphane Bourguet, est-ce que vous diriez qu'il y a tout un courant à ce moment-là dans l'Église catholique, que le monde est mauvais et qu'il y a des choses à changer dans le monde? Est-ce que c'est ça qui habite derrière certains schémas?
Exactement,
derrière...
c'est ça. C'est donc, antimoderniste, c'est exactement ce que je veux dire. C'est cette idée que le monde est mauvais, que tout s'en va vers le pire. On est vraiment une sorte de crispation. On regarde tout avec beaucoup d'anxiété. Tout ce qui vient de tout ce qui n'est pas strictement issu de la tradition et de l'Église est vu comme quelque chose d'hérétique, comme quelque chose contre lequel on doit se prémunir. Et Jean 23 a des paroles très, très claires là-dessus. Il dit certains sont des prophètes de malheur qui ne voient que ruine dans l'époque moderne. Et puis il dit très clairement que c'est pas dans cet esprit-là que le concile doit être mené. Il y a un esprit de dialogue, un esprit d'ouverture, un esprit de revenir aussi aux sources profondes de la foi, à l'Évangile, les pères de l'Église. Donc, pas juste répéter ce qu'on a déjà dit au 19e siècle, mais vraiment revenir à quelque chose de peut-être plus pur, de dégager de certaines... parce que, bon, évidemment que le catholicisme s'est développé au cours de 2000 ans. Tout n'est pas équivalent, hein, tout n'a pas la même valeur. Donc, l'idée, c'est aussi de faire un certain ménage, dans le fond, dans tout cet acquis. Et Ratzinger embarque là-dedans vraiment de façon très enthousiaste. Dans cette vision de Jean 23, lui aussi, justement, a ce désir de revenir aux sources de la foi. Il l'a vécu, d'une certaine manière, avec l'expérience du nazisme aussi. Hein. C'est cette idée que, finalement, on a besoin du christianisme comme d'une lumière, comme quelque chose qui donne de l'espérance, quelque chose qui parle aussi à l'humanité, qui défend la dignité de l'être humain. Et c'est pas le temps de s'encombrer là, avec toutes sortes d'habitudes ou un langage même qui est incompréhensible pour le monde moderne. Et donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Ratzinger participe à ces travaux conciliaires.
Donc, dans ces travaux conciliaires, Joseph Ratzinger va laisser sa trace,
oui,
dans certains documents qu'on connaît ou qui sont connus, enfin, au moins au niveau du titre, oui, et qui ont marqué l'Église le Concile Vatican
exact.
II.
Donc, en particulier, le document Dei Verbum, donc sur la révélation, justement.
Et donc, il y a un lien.
Voilà, exactement. Et donc, Ratzinger, c'est vraiment le document sur lequel il a travaillé. Ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ses travaux-là de thèse d'habilitation sur Bonaventure l'ont vraiment préparé à aborder ce thème-là avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup avec tout un background là, théologique. Et Dei Verbum, justement... contient un peu ces intuitions de Ratzinger, cette idée que la révélation n'est pas justement un catalogue de vérités à apprendre par cœur, que la révélation, c'est vraiment une initiative de Dieu qui se dévoile dans l'histoire, qui se dévoile à l'Église dans l'histoire. Et donc, il y a ce dynamisme, il y a cette souplesse qui existe et qui, en même temps, est loin d'être quelque chose, je dirais, d'une espèce de relativisme, comme si tout était possible, non, mais qui exige de l'Église de tous les membres de l'Église aussi, puisque Dei Verbum insiste sur le fait que tous les fidèles sont vraiment invités à ce processus de discernement. Et donc, c'est un peu, si on veut, la synodalité avant l'heure. Hein. Le pape François a beaucoup parlé de synodalité, hein, d'inclure tout le monde, le peuple de Dieu, dans un grand discernement. Mais c'est dans le fond, c'est ça qui existe déjà à l'époque du Concile. Et encore une fois, Ratzinger laisse sa marque en participant à la rédaction de ce document.
Ouais. Et un des éléments que vous mettez en évidence dans votre livre, Stéphane Bourgui, vous dites bien sûr qu'il y avait une dimension d'obéissance aux autorités cléricales, mais avec ce document, on insiste aussi sur la présence de l'Esprit qui anime les croyants,
exactement,
les croyantes.
Exactement.
Et aussi, on encourage la fréquentation des Écritures. Ça, c'est vraiment nouveau.
Oui, oui.
Il y a quelque chose de révolutionnaire,
oui,
parce que les Écritures, c'était la Bible, c'était réservé aux savants, aux prêtres,
oui,
aux autorités. Mais c'était très peu accessible aux croyants-croyantes. Et là, il y a vraiment un encouragement.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Et ça, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Et c'est quelque chose que le Concile amène, qui transforme vraiment la conception que l'Église a d'elle-même. Bien sûr, il y a toujours une dimension d'ordre dans le sens où, bon... Mais il y a cette phrase justement de saint Augustin qui dit « Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien.
Oh, »
c'est une belle phrase ça, hein, qui montre que oui, l'autorité existe, mais l'autorité, elle est là à l'intérieur, elle n'est pas comme en surplomb du peuple de Dieu, comme si elle devait tout dicter. L'autorité est au service de ce discernement de toute la communauté, de tout le peuple de Dieu. Et moi, il y a une phrase dans l'Évangile à chaque fois qu'on parle de cette question-là, de discernement, du fait que la révélation, c'est pas quelque chose de figé, je repense toujours à cette phrase dans l'Évangile de Jean où Jésus dit « Il y a encore beaucoup de choses que j'aurais à vous dire. »
Ah, oui.
Hein? Il y a cette phrase-là dans l'Évangile de Jean. Et c'est comme si ça disait dans le temps, là, il y a des vérités, il y a des compréhensions qui vont subvenir, qui vont arriver, qui vont... en fonction des différentes époques qu'on va vivre, en fonction de l'histoire de l'Église, de son évolution dans le temps, la vérité, c'est pas quelque chose qui est une liste, hein, une liste comme ça qui est figée dans le temps, c'est quelque chose qui est vivant, qui se dévoile. Et il y a une exigence, dans le fond, de toujours se poser cette question de l'Esprit, de ce que nous enseigne l'Esprit dans l'aujourd'hui, dans le maintenant, et jamais se croire dépositaire, là, à partir de quelques formules, de quelque chose, de toujours laisser ce dynamisme, cette ouverture, ce qui se fait évidemment aussi à travers, encore une fois, la question du dialogue qui revient beaucoup.
Et ça aurait aussi des impacts sur la liturgie, puisque
il va y avoir
la participation, mais aussi de mettre en évidence les différents trésors de la parole de Dieu, de la Bible, avec trois lectures, même quatre avec le psaume.
Oui.
Joseph Ratzinger va, si je comprends bien, va aborder la question de la liberté religieuse.
Oui, aussi.
Et ça aussi, c'est nouveau.
C'est une nouveauté.
Ça, c'est une nouveauté du Concile.
On va dire, avec le Concile Vatican II, c'est une très longue parenthèse qui se termine d'une Église qui avait cherché à se rapprocher des pouvoirs politiques pour bénéficier d'une protection, bénéficier d'un certain statut officiel, que ce soit de religion, d'État, et qui remonte finalement à l'époque de Constantin et Théodose, son successeur. Et là aussi, la question de la liberté religieuse, elle est cruciale, elle fait débat. Les débats des pères conciliaires vont être... il y aura une minorité qui va s'opposer, qui va vraiment résister à cette idée de reconnaître la liberté religieuse comme un droit fondamental, mais finalement, ce qui va arriver, ce qui va faire consensus, ce qui va être adopté, c'est que, oui, l'être humain a un certain devoir envers la vérité, de chercher la vérité. Mais précisément en raison de ce devoir-là, il a besoin de la liberté. Donc la liberté de conscience, elle est sacrée parce que l'être humain a cette capacité à chercher Dieu, à s'ouvrir à la vérité. Et en raison de la dignité de la conscience, le texte « Dignitatis Humanae » va dire bien, c'est un droit fondamental de l'être humain que de bénéficier de la liberté de religion, de pouvoir chercher la vérité, de pouvoir aussi s'associer à d'autres, de pouvoir rendre un culte à Dieu. Et c'est un droit qui est civique, c'est pas juste un droit donc civique qui s'adresse à tous les citoyens. Et donc, ce n'est pas un droit qui est réservé uniquement aux catholiques, comme on avait pu comprendre peut-être dans les siècles précédents, particulièrement au 19e siècle. C'est vraiment quelque chose qui, dans le fond, protège la liberté de tout homme et de toute femme, quel que soit son cheminement.
Bien sûr, un élément très important du Concile Vatican II, Gaudium et Spes.
Oui, la solidarité.
La solidarité, l'Église et son rapport au monde moderne. Voilà. Quelle est la contribution de Ratzinger ou de ses hésitations, peut-être aussi, de Joseph Ratzinger?
Alors, ce document-là, il ne va pas y contribuer directement. Il le salue, par contre. Il salue plusieurs éléments, notamment l'esprit général du document, qui parle de solidarité avec le monde. La question du mariage aussi. Il va saluer le fait qu'on a une vision beaucoup plus personnaliste du mariage. Donc, c'est vraiment, on abandonne cette idée qu'il y a une sorte de fin biologique qui serait uniquement procréative et que le reste est comme subordonné. Donc, on revient à cette idée du mariage, qu'une relation entre deux personnes fondée sur l'amour.
Libre,
consentement. Exactement, consentement. Donc, ça, c'est fondamental et il le salue. La seule chose où il va peut-être mettre, et on sent déjà son expérience à travers ça, c'est qu'il a l'impression que, en tout cas, il met en garde l'Église contre un optimisme un peu béat face à la technologie, face à la civilisation technologique qui commence à prendre de l'ampleur dans les années 60, et qui dit il faut faire attention. Ratzinger est prudent par rapport à ça. Il dit il faut faire attention de pas faire équivaloir un progrès technologique à un progrès moral.
Et dans le fond,
ça revient. Ben oui, tout à fait. Ben oui, puis c'est très actuel, ça, je pourrais dire, avec notre monde d'intelligence artificielle et de technique qui prend un peu la place dans tous les aspects de notre vie. Le progrès technologique n'est pas forcément un progrès moral. Pour qu'il y ait un authentique progrès technologique, il faut qu'il soit accompagné aussi d'une solide armature éthique, qu'on comprenne, dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est vraiment en train de servir le bien commun, le bien de l'humanité, ou est-ce qu'on n'est pas, au contraire, un peu comme le docteur Frankenstein, en train de construire quelque chose qui va
nous
asservir, nous dépasser. Et donc ça, c'est...
Eh bien, Stéphane Bourgui, c'est tellement intéressant qu'on va faire une seconde émission ensemble.
Avec plaisir.
À partir de votre livre Benoît XVI, La foi et la raison, aux éditions Médiapol. Alors, on se retrouve bientôt.
Merci.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous de votre présence, de votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.